le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Très bon début de journée à vous qui nous rejoignez sur France Culture pour le service protestant. Vous êtes prêts pour votre petit déjeuner. Voici le petit déjeuner autrement nourrissant. Aujourd'hui, une parole d'espérance vous est apportée par le pasteur Denis Heller, pasteur de l'Église protestante Unie de France à Bois-Colombes, en région parisienne. Il s'intéresse à la parabole des talents.
Auditeur d'un jour, auditeur de toujours, voilà une petite demi-heure de pause qui vous est offerte. Elle ne requiert pas d'abonnement à payer, elle ne débouche pas sur un contrat à signer, elle n'exige pas de diplôme estampillé, elle n'est pas réservée à quelques spécialistes ou à quelques initiés, elle n'est pas conditionnée à un savoir particulier. Non, elle vous est offerte gratuitement. Comme le verre d'eau que l'on prend pour assouvir sa soif, comme la respiration du matin pour partir d'un bon pied. Elle demande uniquement votre écoute, votre attention. Elle sollicite votre désir de vous concentrer sur l'essentiel, de vous défaire de ce qui est secondaire et accessoire. Alors ensemble, nous pourrons respirer au vent de celui qui est souffle de vie, nous placer à l'écoute de celui qui est parole de vie, mettre nos pas sur le chemin de celui qui nous donne la vie, et recevoir paix et amour de la part de ce Dieu qui en Jésus-Christ se lie de manière personnelle à nos histoires humaines. Il nous donne de prendre de la hauteur par rapport à notre quotidien et de vivre du coup nos existences en profondeur de manière plus intense. Pour entrer dans ce temps de recueillement et de méditation, je vous propose de vous laisser porter par ces paroles. Nous aimerions ramener nos vies à l'essentiel, désencombrer l'horaire qui rythme nos semaines, être attentif, ô Dieu, à suivre ton appel. Nous approcher de toi et nous trouver nous-mêmes. Nous aimerions trouver le calme au fond de nos errances, ne pas perdre l'espoir dans la nuit de nos doutes, et quand déferle sur nous le fleuve de la souffrance, découvrir un chemin de vie au détour de nos routes. Nous aimerions faire taire en nous ce bouillonnement d'idées, arrêter le flot de tous nos bavardages, vivre de ta présence au creux de nos journées, aménager un temps d'écoute et de partage. Amen. Je vous lis des paroles anciennes tirées du psaume 103. Elles nous indiquent le lieu d'une source intarissable de bienveillance et de grâce. Des paroles qui nous rappelle ainsi en qui et en quoi faire reposer nos existences. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles, comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. les textes bibliques proposés pour ce dimanche aux communautés chrétiennes, j'ai retenu le passage de l'Évangile de Matthieu, situé au chapitre 25, versets 14 à 30. Il s'agit de la parabole dite des talents que Jésus adresse à ses disciples. Souvent, Jésus parle en parabole. Par ses récits fictifs, il évoque de manière indirecte et décalée la place de l'humain dans sa relation à lui-même, aux autres et à Dieu. L'auditeur est ainsi interpellé, questionné dans son existence. À qui vais-je m'identifier dans la parabole ? Un espace de réflexion s'ouvre à lui, un cheminement spirituel et existentiel est rendu possible. Je vous lis donc cette parabole des talents dans l'Évangile de Matthieu. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette parabole des talents a certainement très fortement marqué les pionniers du Nouveau Monde. Pétris d'enseignements bibliques, ils étaient conscients des talents et des bénédictions reçues de Dieu. Alors, pour signifier leur reconnaissance et s'engager dans l'obéissance d'une vie de disciples, ils s'évertuaient par leur travail à fructifier ce qui leur avait déjà été donné. Riches de ce qui leur avait été accordé, ils concevaient la fidélité envers Dieu comme une recherche constante à accroître par leur travail encore davantage ces richesses reçues. C'est cette éthique protestante que le sociologue Max Weber a mis en évidence et qu'il considère comme à l'origine du capitalisme. Une parabole des talents qui a elle-même porté fruit en orientant l'engagement professionnel de bien des acteurs de la vie publique, politique, économique, en particulier dans les pays anglo-saxons. Une parabole des talents qui nous met de plein pied dans l'actualité et en lien avec les réflexions sur la croissance, ou plutôt le manque de croissance, la crise, le capitalisme, la nécessité d'investir. Mais il est toujours risqué, je crois, de tirer directement d'un texte biblique, qui plus est une parabole, une perspective économique applicable ou un programme politique réalisable, même si beaucoup en cette période chahutée sont en quête de solutions miracles. Non, c'est plutôt chaque lecteur, chaque auditeur, qui est interrogé au travers d'une parabole sur sa posture face à la vie, sur son attitude face aux autres, face à Dieu, face à ce qui lui semble essentiel. Dans cette parabole, tout à la fois proche de nous, car elle nous parle de croissance économique et d'investissement, et tout à la fois dérangeante, par son final troublant, voire choquant, deux comportements sont mis en opposition, sont mis face à face. Et les traits de chacun d'eux sont alors volontairement forcés, grossis, d'où ce final couperet qui ne s'embarrasse pas de considération. D'un côté, oui, d'un côté, des serviteurs qui prennent des risques, osent se lancer, cherchent à faire fructifier les talents reçus, et la parabole précise aussitôt, c'est-à-dire avec rapidité et détermination sans hésitation. Et de l'autre côté, tout le contraire, un serviteur saisi par la peur, comme paralysé, faut-il dire paresseux, qui ne prend pas d'initiative, mais cherche à se protéger, à protéger le seul talent reçu en le cachant dans un trou. Au retour du maître, d'un côté des serviteurs actifs qui répondent à son attente, qui doublent la mise et sont invités à entrer dans la joie de la vie et de l'action accomplie. Et de l'autre côté, un serviteur inactif, condamné par le maître. Un serviteur dont l'attitude est synonyme de mort. Il s'est contenté du statu quo, il n'a pas bougé. En quelque sorte, il s'est enfermé sur lui-même en même temps qu'il enfermait son talent à l'abri du regard des autres. Une attitude qui le conduit à sa perte, nous dira le final de la parabole. Notez qu'elle ne nous dit rien sur le comment de la fructification, sur le comment de la richesse produite par les deux premiers serviteurs. Nous aurions pu espérer quelques recettes miracles en cette période de réformes et de lois nouvelles. Les talents ont doublé, les serviteurs ont été entreprenants, ce sont leurs résultats aussi bien que leurs attitudes qui ont été loués. Et comment caractériser leur comportement? Deux notions sont à mettre en évidence. Elles viennent rejoindre nos existences. Ils ont eu tout d'abord une attitude responsable. Ils ont su exercer leur liberté en l'absence du maître. Ils n'ont pas attendu ses recommandations ni sa présence. Ils se sont pris en charge, ils ont rempli la mission qui était la leur, celle de serviteur. Être responsable, c'est répondre d'eux, c'est rendre compte d'eux. C'est rendre compte, répondre de ses engagements, de ses actions, de ses richesses ou dons. C'est-à-dire être en mesure d'assumer ses choix par une réflexion librement menée et par une explication toujours possible. C'est être en mesure d'emporter les conséquences devant les autres, et c'est tout le contraire de l'attentisme, de l'attente facile, qui consiste à se décharger sur les autres et à compter sur les autres sans rien faire. Des serviteurs donc courageux, audacieux, qui se sont pris en main et qui ont osé prendre des risques. Conscient que la vie contient sa part de risque, conscient que fuir le risque ou croire au risque zéro ou se protéger à tout prix des risques, c'est faire du surplace, c'est choisir même la voie de la mort. Exercer sa liberté et sa responsabilité pour remplir sa condition d'être humain. Et dans cette responsabilité choisie, ils deviennent eux-mêmes créateurs de richesses. Les richesses reçues sont multipliées. Ils poursuivent ainsi en quelque sorte une œuvre de création inachevée. Créateurs, producteurs à la suite du maître, de richesses qui d'ailleurs dans la parabole sont remises au maître. Elles ne sont pas accumulées pour leur profit, une richesse qui, dit-on, les conduit à la joie, fidèles serviteurs, « Entre dans la joie de ton maître ?» Une richesse, peut-on penser, qui profitera au maître et au plus grand nombre, aux gens de sa maison ? Une responsabilité donc risquée, portée, assumée, qui procure des richesses nouvelles pour le bien commun. N'est-ce pas une attitude aujourd'hui trop souvent absente ? Des êtres libres, créatifs, entreprenants, déterminés, qui n'attendent pas toujours tout des autres, ni de l'État-providence ou de la collectivité, qui ne se défaussent pas sur les autres en jouant les victimes, mais qui se prennent en charge. Une responsabilité vécue devant Dieu en conscience, devant le Maître, duquel les dons sont reçus. Enfin, une deuxième notion tout aussi importante présente tout au long de la parabole. Les serviteurs se sont risqués, se sont lancés, car portés par la confiance. Confiance face à la vie, face aux décisions prises, aux actions menées, confiance en eux-mêmes, confiance aussi et surtout en ce maître qui est la figure de Dieu. La confiance les a fait vivre, les a fait bouger, au contraire du serviteur craintif qui s'est montré inactif. N'est-ce pas aujourd'hui ce qui manque le plus à notre monde en difficulté? De la confiance pour risquer, se lancer, entreprendre? Mais la confiance ne se décrète pas du jour au lendemain à travers un appareil législatif ou un programme politique. Que penser d'un monde qui conditionne sa confiance au verdict des agences de notation, aux valeurs du CAC 40? La confiance est bien plus que cela. Elle se construit dans la durée à travers des paroles échangées, responsables, assumées et suivies d'effets et d'actions. Elle est liée au sort de la parole, au poids des paroles humaines. Elle se tisse dans des relations où la place et la parole de l'autre sont prises au sérieux. Elle se bâtit aussi dans un rapport au réel qui n'est pas fantasmé ni tronqué. N'oublions pas que si les deux serviteurs audacieux et entreprenants ont pu exercer leur responsabilité dans la confiance, c'est qu'ils avaient compris qu'ils pouvaient compter sur la confiance du Maître. Et ce n'est pas rien. Le Maître, en partant, leur avait confié ses biens. Une confiance leur avait été faite, à eux de ne pas la décevoir. Croire en cette confiance accordée avait été pour eux le déclencheur de leur responsabilité et de leur action. Au contraire, le serviteur inactif traite son maître d'homme dur. Il en a eu peur. La peur l'a paralysé, alors que la confiance a mis en mouvement et en action les deux autres serviteurs. Deux attitudes totalement différentes, l'une débouchant sur la joie et l'autre sur la mort. Une conclusion somme toute simple qui indique clairement ce qui est attendu de tout serviteur du maître. Ce qui est demandé à tout être humain, quelle que soit d'ailleurs la nature du talent, richesse matérielle, richesse spirituelle, charisme de l'Esprit Saint, don inné, don acquis, en fait peu importe, car dans une perspective croyante, tout appartient à Dieu. Ce qu'il nous donne, nous confie, est destiné à être multiplié pour les autres, pour le bien commun et pour notre joie. Aimé par lui, pour aimer à notre tour. Accueilli par lui pour accueillir à notre tour, écouté par lui pour écouter à notre tour, pardonné par lui pour pardonner à notre tour, enrichi par lui pour enrichir à notre tour. Être des multiplicateurs des bontés de Dieu, quel que soit le lieu de nos engagements et la nature des talents confiés. Être des porteurs de vie, nous qui en sommes déjà bénéficiaires. Être des passeurs d'amour. Et une simple présence peut faire déjà beaucoup, provoquer des miracles et avoir des effets multiplicateurs. Sommes-nous conscients de ce qui nous a été donné, de ce que nous avons reçu? Sommes-nous conscients de nos talents dont nous sommes bénéficiaires? Sommes-nous conscients des richesses en nous qui pourraient être bénéfiques aux autres? Voir par la foi ce que Dieu, dans sa grâce, nous donne, et devenir par son esprit en responsabilité et en confiance des serviteurs multiplicateurs. Tel est le chemin de vie qu'il nous propose. Mais me direz-vous, qu'en est-il du serviteur condamné? Il s'agit bien d'une parabole, d'une prédication. Elle est là pour justement nous convertir, nous faire prendre conscience de ce que nous sommes, pour nous faire changer peut-être d'attitude, pour que nous invoquions le pardon de Dieu toujours possible, pour que nous invoquions son soutien et qu'il nous aide à devenir à notre tour des serviteurs actifs, multiplicateurs de vie et de richesse. Pour tous, il réserve cette parole. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Notre parabole est une belle histoire de confiance. Le maître fait confiance à ses serviteurs en les laissant agir librement. L'un est saisi par la peur, il se replie sur lui-même avec ce qu'il est et ce qu'il a. Les autres comprennent cette confiance, cette grâce qui leur est faite. Ils se lancent alors dans la vie en étant porteurs eux-mêmes de vie. Les paroles qui vont suivre disent à leur manière cette grande confiance reçue et vécue. Les richesses produites et multipliées conduisent à la foi, à l'espérance et à l'amour. Je vous invite à les entendre comme le tracé d'un chemin de vie possible. Je crois en Dieu, source de confiance. En Jésus-Christ, je découvre Dieu comme un Père riche en bonté. Désormais, c'en est fini, des dieux pères fouettards qui tourmentent et sanctionnent, des divinités qui menacent et punissent, des idéologies et des absolus qui enchaînent et écrasent. Sous le souffle de l'Esprit, une relation de confiance à l'égard de Dieu est possible, qui a pour nom la foi. Je crois en Dieu, source de confiance. En Jésus-Christ, je découvre le prochain comme un frère riche en dignité. Désormais, c'en est fini de l'humain perçu comme un concurrent à éliminer, de l'autre considéré comme un ennemi à abattre dans la course au succès et au pouvoir. Sous le souffle de l'Esprit, une relation de confiance à l'égard du prochain est possible, qui a pour nom l'amour. Je crois en Dieu, source de confiance. En Jésus-Christ, je découvre un monde soulevé par la promesse d'un royaume riche en humanité. Désormais, c'en est fini, d'un monde chaotique, absurde, qui serait soumis à la fatalité de la mort et du mal, d'une terre livrée aux seules puissances de l'injustice et de la voracité. Sous le souffle de l'Esprit, une relation de confiance à l'égard de la vie est possible, qui a pour nom l'espérance. Je crois en Dieu, source de confiance. Il met en confiance, il nous fait confiance. Amen. L'effet multiplicateur de l'amour de Dieu en nos vies a pour conséquence d'élargir nos cœurs et nos esprits et de les ouvrir aux dimensions de son royaume. Ainsi, je vous invite à prier pour nous-mêmes et pour les autres avec ces paroles de la théologienne Francine Carillo. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons devant toi ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Fais-nous riches de tes richesses, richesses d'amour, d'accueil et de partage, toi à qui nous disons maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre petite demi-heure de méditation prend fin. Quelques paroles encore à prendre au vol avec humour et à recevoir en forme d'encouragement. Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi. C'est bon pour les comptables. Moi, je ne sais pas compter. La soustraction, ce n'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, j'ai mal partout. C'est plutôt l'affaire du percepteur. Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages. Voilà des siècles et des siècles que j'essaie d'apprendre aux hommes à ne plus faire de division. Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables et incorrigibles. Ils se servent même de mon nom pour diviser. Mais la multiplication, c'est ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication. Je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis imbattable dans ce genre d'opération. Je suis le multiplicateur et je multiplie tout. La vie, la joie et le pardon. Et si l'homme qui fait le malin multiplie le mal par 10, moi, je multiplie le pardon par 1000. Auditeur d'un jour, auditeur de toujours, nos existences sont au bénéfice de ce Dieu multiplicateur de vie et d'amour. Alors, qu'il nous garde en sa présence et en sa paix, et nous fasse porter du fruit dans la joie de servir et dans la joie de vivre. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Denis Heller de l'Église protestante unie de France à Bois-Colombes, en région parisienne. Merci à Laurent Polleret et à Olivier Dupré pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous pouvez également télécharger le texte et si vous désirez le recevoir par courrier, vous pouvez nous écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à suivre le journal dans quelques secondes, puis vous retrouverez Marc-Alain Wacknin pour Talmudic. Bon dimanche.